Les pays qui sont le plus préoccupés par le changement climatique sont des pays dits du Sud. Quand on demande à des gens des pays du Nord, il leur arrive parfois de dire « Ah, le changement climatique, c'est une préoccupation de gens riches comme nous. » Quand on crève la dalle, comme dans les pays du Sud, en fait, on s'en fout. C'est l'exact inverse.
La crise écologique, en fait, d'une certaine manière, elle est liée à une philosophie individualiste. Sans doute qu'une des réponses majeures à la crise écologique, c'est précisément de retrouver la sagesse de la relation, de l'interaction, que ce soit les relations familiales, amicales, etc.
Il y a quand même quelque chose de très triste, quelque part, dans le fait qu'une société appelle à ne plus faire d'enfants.
Oui, ça c'est sûr.
Parce que c'est quelque part un défaitisme absolu sur ce que l'avenir peut nous réserver. Alors je suis pas en train de dire « faites des enfants partout », c'est pas ce que je suis en train de dire.
On ne peut pas avoir une perception complète de ce que c'est qu'une altérité humaine si jamais on n'est pas capable, en même temps, de prendre soin des altérités non humaines. C'est une certaine manière de se tenir au monde. Quand on dit « tu aimeras ton prochain comme toi-même », il s'agit clairement de l'être humain. Mais d'une certaine manière, l'amour pour le prochain devrait être capable de passer par le détour des altérités non humaines comme étant des propédeutiques à chaque fois du visage d'autrui.
Dans son baromètre réalisé par OpinionWay, paru en octobre 2024, l'ADEME, l'agence de la transition écologique, estime que seuls 9% des Français placent l'environnement en tête de leurs préoccupations. Dans ce sondage, on découvre également que 38% des Français se déclarent climato-sceptiques, contre 25% en 2019. Le constat est clair, l'écologie ne semble plus intéresser grand monde. Quand on regarde ce sondage, il semble que l'enjeu est double, l'absence de conscience du problème et l'absence d'action. Mais pourquoi les acteurs de notre société ne font rien ou pas grand-chose? Pourquoi l'action écologique est-elle impopulaire? Ulrich de Gelis, bonjour. Vous êtes prêtre, docteur en théologie, directeur de la recherche au Collège des Bernardins. Vous y avez travaillé pendant 5 ans avec une équipe de scientifiques pluridisciplinaires. On peut citer entre autres l'anthropologue et philosophe Bruno Latour ou le pionnier de l'histoire environnementale Grégory Quenet. Et vous travaillez à penser de nouvelles pratiques qui mobilisent et poussent à l'action les acteurs de notre société. Vous nous en reparlerez sûrement. Jean-Marc Jancovici, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes ingénieur de formation. Vous êtes à l'origine du bilan carbone qui permet de quantifier les émissions de gaz à effet de serre générées par les activités humaines, les entreprises en particulier. Fondateur du Shift Project, think tank qui travaille sur l'émancipation de notre économie des combustibles fossiles, membre du Haut Conseil pour le Climat, fondateur du cabinet de conseil Carbone 4, référence sur les enjeux énergie et climat. Voilà plus de 30 ans que vous travaillez sur ces questions et que vous avertissez le grand public des dangers qui guettent notre planète. Petite question préliminaire pour vous, Jean-Marc Jancovici, pour essayer d'identifier quelques raisons d'inaction écologique, peut-être. Prenons le problème dans l'autre sens. Qu'est-ce qui vous fait agir personnellement depuis 30 ans, Jean-Marc Jancovici?
Moi, j'ai la chance d'être du bon côté de la barrière. J'ai la chance d'être du bon côté de la barrière parce que je suis tombé dans cette marmite-là complètement par hasard. En fait, le bilan carbone, il est né avant tout d'une curiosité intellectuelle. Je n'étais pas militant écologiste depuis tout petit. Et un jour, je me suis intéressé à la question du changement climatique un peu au détour d'une autre considération dans un cadre professionnel. Et puis, en commençant à tirer les fils de la plotte, là, j'ai trouvé qu'il y avait une matière à très intellectuelle, si je le dis comme ça, qui avait quelque chose d'un peu fascinant. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui est totalement multifacette, totalement systémique, ça touche à peu près à tous les aspects de la société. Mmh. Donc, pour quelqu'un qui est un peu curieux, ça permet de discuter à la fois des plottes de laine, comme de la culture des radis, comme de la réparation des voitures, comme de pourquoi les gens vont à l'église. Enfin, on peut aborder à peu près n'importe quel de ces sujets quand on commence à rentrer dans la question environnementale. Voilà, donc ça, c'est, comme je suis quelqu'un d'un peu curieux, j'ai trouvé que le truc était intellectuellement très excitant. C'est pour ça que je m'y suis plongé essentiellement. Après, j'ai eu la chance de démarrer ma vie professionnelle dans ce secteur à une époque où il n'y avait pas grand monde qui s'intéressait à la question. Donc finalement, il y avait, comme on dit parfois, un boulevard. Et je suis resté depuis cette époque plutôt du côté des gens qui sont heureux d'y être, tout simplement parce que c'est encore une fois intellectuellement stimulant, parce qu'il y a plein de choses à faire, et parce que je suis entouré de gens qui partagent un peu cette conviction. Donc moi, ce qu'on a coutume d'appeler parfois le backlash écologique, etc., je ne le vis pas tellement au quotidien, enfin je le vis un peu par ce que je perçois de l'extérieur. En ce moment, c'est difficile de pas y être, enfin d'y être totalement insensible, parce qu'il se passe quand même des choses à droite et à gauche, mais je suis, on va dire, raisonnablement préservé de cette affaire-là, parce que je suis entouré de gens qui ont envie d'aller dans la même direction que moi. Donc je suis pas représentatif de ce point de vue.
Et vous, Ulrich de Gélis, qu'est-ce qui vous fait agir ?
Eh bien, pour reprendre un petit peu c'est une histoire différente évidemment, mais pour reprendre un peu mon histoire, moi c'est quelque chose qui m'a toujours fortement impressionné. Ayant grandi dans une famille chrétienne, catholique, croyante et pratiquante, et ayant grandi, cette chance d'avoir grandi notamment à la campagne, d'avoir fréquenté, je suis désolé, il y a un côté un peu romantique, un peu poétique, mais c'est comme ça que c'est rentré. Avoir fréquenté notamment la mer, et j'aime beaucoup naviguer, donc c'est quelque chose que je fais avec grand, grand plaisir. En fait, j'ai tout de suite été très impressionné, mais même très jeune, par à la fois l'immensité, la diversité et la beauté des créatures, des êtres. Et cet attachement-là a grandi au fur et à mesure que moi-même j'ai grandi, et je l'ai retrouvé, mais exprimé d'une manière absolument nouvelle et pour moi extrêmement forte dans l'encyclique du pape Laudato Si en 2015. Et ça a été à l'occasion de cette encyclique, il y a maintenant 10 ans, que je me suis dit qu'il fallait traiter la question aussi d'un point de vue intellectuel. Alors comme j'étais déjà théologien, ça supposait repenser la question de la création, la théologie de la création, et puis poursuivre un peu cette investigation. Et puis en 2020, l'archevêque de Paris m'a donc demandé de prendre la direction de la recherche ici au Collège des Bernardins et de travailler avec Bruno Latour et Grégory Quenet, comme Alexandre l'a rappelé. Et là, j'ai découvert un monde que je ne connaissais pas beaucoup. J'avais déjà entendu parler de vous, bien entendu, mais c'est toute l'approche scientifique, parce que dans notre collectif, il n'y a pas simplement des anthropologues et des historiens. On travaille aussi avec quelqu'un comme Jérôme Gaillardet de l'IPGP et d'autres scientifiques des sciences de la nature, ce que je ne suis absolument pas, mais ça m'a proprement fasciné. Et donc voilà, donc grande aventure intellectuelle. Et forcément, à partir de ce moment-là, les choses percolent, c'est-à-dire qu'on peut pas à la fois être réfléchir et penser à ce genre de choses-là quand les actes n'y sont pas par ailleurs. Donc c'est à cette occasion-là que j'ai pris un certain nombre de décisions et qui m'emmènent progressivement à essayer d'avoir un mode de vie qui soit moins carboné et plus respectueux de cette création. Mais enfin, on aura peut-être l'occasion aussi de déployer tout cela, parce qu'il n'y a pas simplement le respect des non-humains, mais derrière, il y a aussi le respect des humains, et on en reparlera, j'imagine.
Jean-Marc Jancovici, on a l'impression que plus le problème se fait pressant, plus les acteurs de la vie publique s'enterrent dans l'inaction. On en veut pour preuve la hausse constante des émissions de gaz à effet de serre dans le monde, les déclarations de Trump sur le forage pétrolier, et les discours de tous bords qui délaissent ce thème. Est-ce que vous avez le même sentiment ?
Alors, pas exactement. Moi, j'ai le sentiment, d'abord, qu'il faut se méfier de l'écume des vagues. Parce que le système médiatique dans lequel on est plongé a toujours tendance à amplifier des petites variations jusqu'à les faire... Si on prend l'exemple du climato-scepticisme, mon sentiment, c'est que aujourd'hui, ce qu'on appelle climato-scepticisme n'a plus rien à voir avec ce qu'on appelait climato-scepticisme il y a 20 ans. Il y a 20 ans, il y avait un certain nombre de gens qui étaient franchement convaincus du fait que le réchauffement climatique, c'était une chimère, que le climat n'allait pas se réchauffer, que les scientifiques racontaient n'importe quoi, etc. Aujourd'hui, les gens qui vous disent qu'ils sont climato-sceptiques, en fait, il y en a les 2/3, si ce n'est les 3/4, qui ne sont pas du tout sceptiques sur le dossier scientifique. C'est des climatos énervés par les solutions qu'on leur propose pour répondre aux problèmes ou par le comportement des gens qui se considèrent comme les dépositaires exclusifs du discours sur le problème. Donc, pour le dire autrement, ils n'ont pas envie de la voiture électrique et de la pompe à chaleur parce que ça leur coûte trop cher, et ils sont énervés par les écolos parce que, par ailleurs, ils racontent des tas de trucs sur des sujets qui n'ont rien à voir avec l'environnement qui les énervent. Je la fais un peu courte, mais bonne. Ces gens-là ne sont pas, pour moi, des climato-sceptiques. Ils ne le sont pas. C'est-à-dire qu'en fait, quand vous allez trifouiller au fond, ils vous disent « oui, les scientifiques, j'ai confiance ». Donc, ils ne sont pas vraiment climato-sceptiques, au sens où ils auraient un rejet convaincu, sincère, profond, du fait que le climat ne change pas. Puis, ils voient bien ce qui se passe autour d'eux, ils ne sont pas complètement idiots. Des gens qui sont franchement climato-sceptiques aujourd'hui, quand on regarde d'un peu près, moi, j'estime la proportion à 10%. Alors que je pense qu'il y a 20 ans, on était significativement plus élevé que ça.
Pour préciser et détailler le chiffre de 38%, il est la somme des 30% qui pensent que le changement climatique est un phénomène naturel, 6% qui n'ont pas d'avis et 2% qui nient totalement le changement climatique. Donc ces 38% désignent donc ceux qui ne doutent pas forcément du réchauffement, mais
Oui,
qui
mais
doutent des causes humaines du réchauffement.
il y a plein de définitions du climato-scepticisme, et puis il y a une très bonne étude d'une association qui s'appelle Parlons Climat, qui a été publiée il y a quelques mois, et qui montrait qu'en fait, le taux de gens qui doutent de l'origine humaine du réchauffement climatique et de l'existence du réchauffement climatique augmente à mesure que dans le sondage dans lequel vous leur demandez leur avis, vous leur proposez plus de choix côté climato-sceptique. C'est-à-dire, si vous leur proposez juste une seule réponse, genre, vous mettez tout dans un seul paquet, ou bien c'est pas ceci, ou bien c'est pas cela, etc. Vous en avez 25%. Et si vous leur proposez plein de choix de réponses, toujours côté climato-sceptique, ça monte à 50. Donc, et moi je me méfie un peu des sondages où la réponse est dans la question. Encore une fois, et vous voyez d'autres signes extérieurs du fait que, ça, à mon avis, ça a très fortement baissé, c'est qu'aujourd'hui vous n'avez plus un organe de presse. Un peu significatif, j'ai envie de dire. Il y a quelques résistants dans les coins, Valeurs Actuelles, un peu de CNews par-ci par-là, mais globalement, la presse mainstream n'ouvre plus ses colonnes à des positions de gens qui disent, comme le faisait Claude Allègre il y a 20 ans, les scientifiques racontent n'importe quoi, ils sont vendus, le climat se réchauffe pas. Du reste, regardez l'année dernière, c'est fini ce genre de choses. Ça, y a quasiment plus. Et c'est pas seulement vrai en France, c'est vrai dans beaucoup de pays européens. Bon, je laisse un peu les États-Unis à part, parce que les États-Unis, c'est un drôle de. C'est un bestiaire particulier. Mais globalement, en Europe, en tout cas, cette position-là est devenue très peu visible dans la presse. Mais je dis bien la remise en cause du dossier scientifique, je ne parle pas du reste. Sur le reste, pour moi, il y a un désarroi qui est évident. Et alors, ce désarroi, il est né de deux. Il a deux entrées. La première, c'est la responsabilité en incombe malheureusement à une partie des gens qui prônent l'action contre le réchauffement climatique, parce qu'ils ont trop enjolivé la mariée et ils ont dit l'action créera de la croissance, créera, etc. Or, quand vous regardez en pratique ce que signifie l'action, c'est pas vrai du tout. Ça ne crée pas de la croissance, ça crée une contrainte supplémentaire. Une contrainte supplémentaire, ça crée pas de la croissance et ça crée pas une vie plus facile. C'est pas vrai. Donc il y a, alors ça veut pas dire qu'il faille désespérer, ça veut pas dire que, etc. Du reste, l'Église le sait bien, où il y a plein de préceptes qui sont des exhortations à l'effort. Mais il faut pas se raconter d'histoire. À un moment, il faut pas se dire jeûner, c'est quand même vachement plus sympa que de manger une part de tarte aux pommes. Ouais, non, c'est pas vrai. Bon, ça veut pas dire qu'il faut pas le faire, mais en attendant, donc c'est disruptif sur les habitudes. Et on est des êtres d'habitude, je veux dire, c'est comme ça qu'on est bigorné. Donc ça va avec un effort, et le fait d'avoir trop souvent dit ça va être facile, on va y arriver d'un claquement de doigts, je pense que ça dessert derrière la cause. La deuxième chose qui se passe, c'est que à force d'avoir trop attendu pour agir, on commence à être rattrapé par la patrouille, c'est-à-dire qu'on commence en Europe à être rattrapé par le stress sur l'approvisionnement en ressources et notamment en énergie, qui fait que la situation se détériore sans qu'on cherche à agir dessus, d'où les problèmes industriels, économiques, etc., le sentiment de déclassement des gens, etc., qui est d'autant plus marqué que par ailleurs le monde politique, qui n'a pas compris ce qui se passait, continue à dire faites-moi confiance, si c'est moi à la place de l'autre affreux d'en face, là, vous allez voir les lendemains qui chantent, et puis en fait les lendemains chantent pas plus, mais c'est pas grave, continuez tous à dire ça. Du coup, il y a une espèce de tentation de jeter le bébé avec l'eau du bain. Qui est de dire, c'est bon, n'en jetez plus, j'ai déjà assez de problèmes comme ça, vous n'allez pas en plus m'obliger à changer ma bagnole pour une voiture électrique, à changer mon mode de chauffage, à changer ceci, à changer cela et à renoncer au barbecue. Et donc, il y a aussi cette espèce de recul qu'on peut observer. Mais pour finir par une note d'espoir, je ne pense pas que c'est quelque chose qui est définitif. Quel qu'il soit, pour un nom définitif. Mon sentiment, c'est qu'il y a des fluctuations autour d'un mouvement de fond. Et le mouvement de fond, c'est quand même que on rentre dans le dur, que le problème, il est bien là, qu'il va falloir s'en occuper, que la majorité de la population est convaincue qu'il faut s'en occuper, et qu'aujourd'hui, les problèmes centraux, c'est des problèmes de passage à l'action. C'est ceux-là qui font que de temps en temps, il y a un mouvement de recul. Quand vous, les mêmes climato-sceptiques, quand vous leur demandez s'ils sont d'accord pour avoir une eau propre et un air pur, ils vous disent oui, hein. Donc, en fait, c'est vraiment une question de passage à l'action. Et là, les maîtres mots, on va se placer vraiment sur le terrain. Alors, un peu de la technique et beaucoup des valeurs, c'est-à-dire ouais. beaucoup du sentiment de justice, de l'équité, du partage de l'effort, du fait qu'il y a un motif d'espoir dans l'action, ouais. etc., des bénéfices de court terme. Enfin, c'est tout ça qu'il faut travailler aujourd'hui et qu'on n'a pas assez travaillé de par le passé.
Voilà, Dujis, vous voulez réagir ?
Oui, enfin, je consonne en fait à la description que vous avez faite. Évidemment, quand je vous entends parler des valeurs, moi je me dis là on a peut-être quelque chose à faire effectivement, et c'est là où ça devient intéressant de coupler en particulier un certain nombre de disciplines ou de pratiques qui n'avaient pas été couplées jusqu'à présent. C'est très impressionnant de voir à la fois le recul, par exemple, de l'ESG. Vous avez cité les États-Unis, BlackRock, par exemple, qui dit il n'y a pas si longtemps que ça, on ne parlera plus d'écologie. De voir combien est-ce que les entreprises américaines laissent tomber un certain nombre de prescriptions environnementales, en tout cas dans les faits, alors qu'en réalité, ils sont pressés, ne serait-ce que par leurs assureurs, à prendre un certain nombre de dispositifs et de mesures pour faire face à la question qui est une question climatique. Donc, un certain recul peut-être effectivement dans les choses de surface. Vous parliez d'écume tout à l'heure, mais c'est vrai. Je discutais il n'y a pas si longtemps que ça avec quelqu'un, un éditeur qui disait qu'à l'heure actuelle, les livres sur la question écologique ne se vendent pas ou pas très bien, beaucoup moins qu'auparavant. Et en effet, c'est cyclique, c'est-à-dire que dans quelques semaines, quelques mois ou quelques années, ça reviendra. Je suis assez d'accord aussi pour dire que précisément la question, c'est vraiment la question du passage à l'action. Et ça, c'est un véritable problème. Ça, c'est une véritable question. C'est une question à laquelle on n'a pas été tellement habitué. C'est une question qui est délicate, compliquée, parce qu'elle touche à la liberté, elle touche à la fois à la collectivité et à l'individualité. Difficile de savoir comment promouvoir une action de masse qui soit suffisamment significative sans que les gens se sentent mis en boîte ou tordent le bras, etc. etc. Donc ça, c'est vraiment une vraie, vraie, vraie question.
Juste un petit mot sur le Collège des Bernardins avant de poursuivre ce débat. Le Collège des Bernardins, c'est un lieu de dialogue porté par la recherche, la formation, l'art et le débat. C'est aussi une association qui vit à 45% grâce à votre générosité. Afin de nous aider à construire une société plus à l'écoute de l'opinion de l'autre, nous vous invitons à devenir mécène du Collège des Bernardins en cliquant sur le lien en description. Si vous avez aimé cette vidéo, vous pouvez la liker et vous abonner à notre chaîne. Vous pouvez également retrouver tous nos contenus sur toutes les plateformes de podcast. À bientôt. Vous avez parlé de la perception que peuvent avoir les individus du fait scientifique. On a l'impression aujourd'hui que les sciences deviennent morales ou injonctives. Des discours qui se veulent strictement descriptifs peuvent pour certains paraître injonctifs. Ulrich de Gelis, faut-il construire un discours scientifique qui soit totalement dépourvu de morale afin d'être mieux accepté ?
En fait, moi je dirais que ce que je trouve relativement novateur dans cette situation, c'est l'ampleur en fait du phénomène. Mais ce genre de phénomène a existé auparavant. Il suffisait de prendre par exemple un épisode qu'on a tous connu, c'est la question de la pandémie, où là précisément le discours des experts ou des scientifiques avait une valeur qui était, extrêmement forte et qui se traduisait quasiment immédiatement dans l'organisation de la vie sociale. Mais là, ce qui est assez impressionnant, me semble-t-il, c'est l'ampleur du phénomène. C'est-à-dire que c'est pas simplement un phénomène pandémique, c'est pas simplement un phénomène qui est circonscrit dans le temps et dans l'espace. Non, c'est quelque chose qui est global. Et donc ça, ça rejoint d'ailleurs la question qu'on venait d'élaborer tout à l'heure, c'est-à-dire comment est-ce qu'on traduit des données scientifiques et techniques dans des actions. Et la grande question qui se pose à ce niveau-là, c'est il faut trouver les médiations. C'est-à-dire que ça ne se fait pas de manière comme ça, ça ne se transpose pas de manière aussi facile. Or, pour trouver des médiations sur ce genre de choses-là, on est relativement peu outillé parce que l'organisation classique des savoirs fait qu'il y a une séparation très claire entre les sciences de la nature et les sciences de l'esprit. Et qu'on n'aime pas trop qu'il y ait des mélanges, des objets hybrides qui soient à la fois scientifiques et morales. C'est des choses qu'on n'aime pas trop. Donc, situation en fait épistémologique un peu compliquée, mais qu'il va falloir travailler, justement, pour laquelle il va falloir trouver un certain nombre de médiations. Alors la question de la médiation, pour moi, c'est une question qui est absolument fondamentale. Vous aviez encore une fois parlé tout à l'heure de valeurs, ça suppose aussi une réorganisation de tout un espace intérieur. Donc on touche à des domaines qui sont de l'ordre de la spiritualité, mais on pourrait toucher aussi à des domaines qui sont de l'ordre du bien commun, du bonheur. On pourrait se reposer la question, qu'est-ce que c'est qu'une société heureuse ? Ça suppose la question de la liberté. Est-ce que notre liberté est simplement déterminée à consommer, extraire et à chercher une forme d'émancipation ou alors est-ce que c'est autre chose ? Est-ce qu'il faut construire un monde commun dans lequel on puisse avoir, dans lequel on puisse être heureux ? Ça, ce sont des questions en fait qu'il faudrait qu'on se pose. Et ce sont des questions qui impliquent tout aussi bien les organes de l'État que les citoyens. Et donc, je pense qu'à ce niveau-là, il y a beaucoup de gens qui auraient des choses à dire, et pas simplement des experts ou des gens qui se disent « Ah oui, moi j'ai une bonne idée, voilà ce qu'on va faire ». Donc voilà, donc je pense que c'est la construction de ce genre de valeurs, de médiation qui me semble être à l'ordre du jour.
Sur la même question. Alors moi j'aime bien mettre les trucs dans des cases, je suis désolé. La science n'est pas morale, ou en tout cas la science de la nature, la science des choses, j'ai envie de dire, pas la science de l'esprit, mais la science des choses, c'est pas moral. C'est noir, c'est blanc, c'est blanc, la Terre est ronde, elle n'est pas carrée, pas cubique, etc. Il n'y a pas de morale dans le fait que la Terre soit ronde. Donc, zéro morale là-dedans. Donc quand on est dans la partie description scientifique de l'environnement qui nous entoure, il n'y a pas de morale. Quand on est dans le passage à l'action, il ne peut y avoir que de la morale. Parce qu'on va faire rentrer, agir, ça n'est qu'un problème, ça n'est qu'un sujet de... Alors, il y a des choses qui sont instinctives. Je veux dire, s'éloigner du feu quand ça brûle, etc. Ça, c'est de l'action, mais c'est instinctif. Mais quand on est dans l'organisation de la préférence collective, ça ne peut relever que des valeurs et que de la morale. Qu'est-ce qui fait qu'on a envie, par exemple, s'il reste un peu de pétrole, plutôt de le mettre dans les voitures pour les gens qui vont au boulot, ou plutôt de le mettre dans des avions pour partir en vacances en allant au boulot en vélo ? Bon, ça ne peut relever que d'une affaire de préférence, donc de valeur, donc de morale, entre guillemets. Enfin, je veux dire, on est totalement dans le subjectif dans cette histoire-là. Oui. C'est 100% de l'humain, il n'y a plus de vérité scientifique. D'accord, il ne peut y avoir qu'une préférence collective exprimée, c'est absolument tout. Quand on dit aujourd'hui, on est devenu obèse énergétiquement, j'aime bien cette expression, et donc il va falloir qu'on se contente de moins. Gérer un renoncement, ça n'est qu'une affaire de morale, ça n'est qu'une affaire de valeur, et savoir du reste comment est-ce qu'on répartit ce renoncement, est-ce que M. Bernard Arnault en prend plus que les autres parce qu'il a plus au départ ou pas, c'est qu'une affaire de morale. Il n'y a rien d'autre pour, le sentiment de justice, ça renvoie aussi à des valeurs, et c'est peut-être quelque chose qui est éminemment moral. Donc, y a, dans le passage à l'action, aujourd'hui, j'ai envie de dire, on souffre d'un déficit, alors non pas de morale au sens de moralisation ou de discours moralisateur, mais au sens de bien remettre, pardon pour l'expression ici, l'église au milieu du village, c'est-à-dire de débattre de ce qui est vraiment le problème, c'est-à-dire la façon dont on organise nos préférences collectives. On a tendance, moi le premier, j'ai fait ça pendant très longtemps de façon un peu exclusive dans notre société technologique, à imaginer que le débat sur les solutions est avant tout un débat technique. On va s'occuper de faire des voitures électriques, des vélos électriques, des pompes à chaleur, qu'est-ce que je sais. Oui, évidemment qu'il y a cette partie-là, mais il y a aussi fondamentalement quelque chose qui relève des valeurs, de la morale, appelons ça comme on veut, de la morale, mais encore une fois, pas au sens moralisation, de notre affect,
de l'éthique,
des émotions, oui. et de toutes ces choses, de justice, etc., enfin, de choses qui sont profondément des émotions, quoi, pas du tout des... qui, pour le coup, ne relèvent pas du discours scientifique sur la façon dont l'environnement se présente à nos yeux.
Mais alors, comment on fait pour convaincre les individus qui n'ont pas les mêmes valeurs que nous en matière d'environnement ?
Eh bien, c'est extrêmement compliqué, et on le voit aujourd'hui dans le hiatus qu'il peut y avoir entre l'Europe et les États-Unis. L'Europe et les États-Unis sont deux cultures, enfin, je mets l'Europe au sens large, où on n'a pas du tout le même rapport à la limite. L'Europe est un continent qui a épuisé ses ressources propres, qui a connu la famine, qui a connu la maladie, qui a connu la pénurie, qui a connu le rationnement, qui a connu enfin, tout un tas de turpitudes, qui font que les gens comprennent ce que c'est qu'une limite globale. Et par ailleurs, il y a une forme de fatalisme ou de résignation face à ces limites globales. Les États-Unis, c'est un pays qui s'est construit par la brutalité et la violation des limites dans un monde qui est physiquement un monde d'abondance, plein d'espace, plein de ressources. Ça a été très longtemps le premier producteur de pétrole au monde et ça l'est redevenu. C'est immense, il y a tout ce qu'il faut. Et donc, vous connaissez la maxime américaine, hein, « the sky is the limit », enfin je veux dire, et encore même pas, puisque maintenant on le dépasse pour aller sur Mars. Donc, donc les États-Unis, ils ont un rapport à la limite globale, n'existe pas. S'il y a plus, il y a encore. S'il y a plus chez soi, il y a chez les autres. Et s'il y a plus chez les autres, il y aura sur Mars. Enfin, je veux dire, ça n'existe pas. Bon. Là, vous avez typiquement un conflit de valeurs que vous retrouvez dans les négociations climat. Et donc, en fait, vous êtes face à un mur si vous pensez qu'on va embarquer les États-Unis comme ça dans l'action. Ça ne va pas se passer comme ça. Il va falloir qu'on trouve des voies détournées parce que la valeur qui est la nôtre, qui est d'accepter la limite, eux, ils ne la partagent pas. Voilà un exemple. Donc, mais c'est le quotidien. Je veux dire, dans tout corps constitué, dans toute organisation, etc., ça arrive très, très fréquemment que vous deviez gérer collectivement quelque chose alors que vous êtes face à des gens qui ne partagent pas vos valeurs. Comme ça, il faut faire avec.
Et sur la question de la limite aux États-Unis, c'est le mythe de la frontière, qu'on voit très bien d'ailleurs dans les westerns qu'on peut voir, on voit la frontière qui s'en va vers l'ouest, et en fait l'objectif c'est de pousser la frontière à l'ouest, et quand on est arrivé à l'ouest, on va sur la Lune. Une fois qu'on est allé sur la Lune, on va sur Mars. Donc le mythe de la frontière est un mythe constructeur, un mythe fédérateur de la nation américaine, ce qui n'est absolument pas le cas, comme vous l'avez dit, des nations européennes. Mais je trouve, moi, je voudrais revenir sur ce que vous avez dit sur la séparation entre effectivement les sciences et ce qu'on a appelé, alors on va pas dire le mot moral parce que je suis assez d'accord avec vous, c'est un mot qui n'a pas forcément bonne presse. Disons peut-être éthique, qui est peut-être plus plus consensuel et donc aussi plus ouvert. Moi, je crois vraiment que archi d'accord avec vous pour dire qu'il n'y a pas de morale dans les sciences quand la Terre est ronde, c'est pas une question de morale. Par contre, la vision du monde qu'alimente la réflexion scientifique pousse une cosmologie qui est déjà à la limite des frontières entre la science et l'éthique, entre la science et puis la façon de projeter l'action. Et cette cosmologie-là est un lieu dans lequel, à partir duquel, on peut revoir, alors ça veut dire critiquer, assumer, transformer les valeurs que nous avons. Moi, je suis convaincu aussi que la question écologique implique l'histoire. C'est-à-dire que on vient de quelque part, on va vers quelque part. Il est important de penser des transformations, pas simplement d'ailleurs sur les modèles de production énergétique, etc., mais aussi des transformations sociales, et d'être vraiment conscient des étapes et des pas que l'on peut faire dans ces questions de transformation. Or, l'élaboration d'une cosmologie, en tout cas le partage d'une cosmologie, on va dire, commune, à mon avis, est quelque chose de véritablement important. Or, je crois, et ça c'est vraiment une conviction personnelle, c'est que si vous regardez, par exemple, la vision promue par les sciences du système Terre, dans lesquels on voit, alors si vous explorez ce qu'on appelle la zone critique, que finalement tous les êtres sont plus ou moins imbriqués l'un dans l'autre, même le concept qui a soutenu la physique et la métaphysique occidentale pendant si longtemps, à savoir celui de substance ou de monade, c'est-à-dire de principe autonome, en fait est fortement remis en question, parce que une plante, un animal, que sais-je, un être humain ne vit pas sans l'apport d'autres choses. Donc en fait, ce qui est très intéressant dans ce système, enfin en tout cas ce que la vision scientifique du système Terre tend à montrer, c'est que la construction des êtres et même de l'habitabilité du monde, en fait, est une histoire de réseau. Et qui dit réseau, dit extension de la liberté, ou du moins de l'extension de la responsabilité. Et ça, je crois que c'est un événement qui est absolument unique dans l'histoire de la responsabilité humaine, c'est qu'on comprend que nous avons une responsabilité qui n'est pas simplement locale, mais qui est, alors je ne vais pas dire universelle, parce que les gens ont pensé qu'on pouvait aimer l'humanité avec un grand H, mais c'est pas de ça dont je voudrais parler, mais que la responsabilité est proprement planétaire. C'est-à-dire qu'elle court, pour certaines de nos actions, le long de réseaux qui vont toucher, en fait, certaines parties du globe, etc., ce qui fait dire que nos modes de vie sont interconnectés les uns les autres, que dans l'encyclique Laudato Si, on dit tout est lié, et cette ligature des choses, des êtres et des interactions est quelque chose qu'il faut véritablement penser. Donc là, je pense que les scientifiques ont vraiment des choses à nous apprendre, qui sont propres à éclairer de nouveaux régimes dans lesquels la responsabilité humaine peut se déployer. Et là, je crois que c'est quelque chose qu'il faut... Enfin, c'est là où on voit que le mythe de la frontière ne suffit plus, en fait. C'est-à-dire que les Américains peuvent vivre ce qu'ils veulent, peuvent faire ce qu'ils veulent, mais il faut il y a un moment donné où il faut prendre conscience que le mode de vie américain ne peut pas être partagé par 8 milliards de personnes. C'est absolument pas possible. Et donc, bah, il va falloir régler ce problème. Alors, je dis ça de manière très macro, mais il y a quand même quelque chose de cela. Et j'aime bien cette idée de responsabilité devenue, non pas universelle, mais planétaire.
Ulrich de Gélis, vous avez parlé de mode de vie interconnecté, d'une responsabilité planétaire de nos actions. J'en déduis que l'action écologique peut être considérée comme une charité envers les populations les plus pauvres qui sont les premières victimes du dérèglement climatique. Mais à ce moment-là, dans la pratique, comment cette charité, si on peut l'appeler comme ça, peut agir entre des populations qui ne sont même pas en contact physique ?
Bah alors, charité, c'est un mot chrétien. C'est un mot qu'on trouve dans l'évangile, c'est un mot qu'on trouve dans la tradition chrétienne, c'est un mot aussi qui correspond à une expérience spirituelle. On peut élargir le concept et parler de solidarité, d'attention, on peut employer le mot soin, on peut employer plein de mots différents. Mais en fait, l'idée, elle est là, quand même. Oui, effectivement, elle est de prendre conscience, c'est vraiment un événement de prise de conscience, elle est de prendre conscience que je peux prendre soin par des actions, positive ou négative, soit en faisant, soit en ne faisant pas, mais je peux prendre soin, contribuer en tout cas à prendre soin des réalités, de réalités non humaines et humaines, parce que tout ça c'est lié, qui sont parfois très très lointaines. Et ça c'est quelque chose, comme je le dis, qui est un événement à mon avis nouveau. C'est quelque chose face à laquelle l'humanité se trouve confrontée, et je pense qu'il n'y a pas de moment dans l'histoire des hommes où nous sommes face à cette question-là, ce qu'on appelle l'anthropocène. L'anthropocène, c'est ça. C'est pas simplement de dire que l'anthropos, d'ailleurs on pourrait se poser la question qui dans l'anthropos, est un acteur géologique majeur. Mais c'est à l'inverse aussi, c'est de dire que l'anthropos est devenu responsable d'une manière de vivre, etc. Donc en fait, ce collectif, en fait, c'est quelque chose qu'il faut réussir à penser. Et ça, c'est quelque chose de nouveau. Donc j'estime que, en tout cas dans la foi chrétienne, il y a un certain nombre de ressources, à la fois spirituelles, théologiques et philosophiques, pour réfléchir à ces questions-là, et pour promouvoir des actions. Donc ça, j'en suis assez convaincu. Mais ça ne veut pas dire que ceux qui ne partagent pas la foi chrétienne sont devant ces phénomènes comme quelque chose, comme une poule qui aurait trouvé un couteau. Chacun peut inventer quelque chose dans ce type-là. Mais c'est là où je pense que, pour revenir à ma question, enfin à mon point, je pense que les sciences, dans leur contribution énorme qu'elles apportent à la construction d'une cosmologie implicite, c'est quelque chose, à mon avis, d'extrêmement important.
Jean-Marc Jancovici, nous avons parlé de l'encyclique du pape François, Laudato Si, paru il y a maintenant 10 ans. Dans cet ouvrage, le pape appelle les chrétiens, et d'ailleurs pas que les chrétiens, mais toutes les personnes de bonne volonté, à écouter la clameur des pauvres et celle de la terre. Mais comment peut-on faire entendre l'urgence écologique à des populations qui luttent pour leur survie quotidienne, et comment concilier le droit au développement des pays du Sud avec les limites planétaires ?
Il y a EDF qui publie tous les ans une analyse extrêmement intéressante qui s'appelle Obscope, qui regroupe la réponse aux mêmes questions qui sont posées dans une trentaine de pays différents. Et aussi étonnant que ça puisse paraître, les pays qui sont le plus préoccupés par le changement climatique sont des pays dits du Sud. Quand on demande à des gens des pays du Nord, il leur arrive parfois de dire « Ah, le changement climatique, c'est une préoccupation de gens riches comme nous. Quand on crève la dalle, comme dans les pays du Sud, en fait, on s'en fout. » C'est l'exact inverse. Alors, pourquoi est-ce que c'est l'exact inverse ? Parce que ces populations sont beaucoup plus dépendantes de l'agriculture. Elles ont une maîtrise des conditions favorables pour l'agriculture qui est plus faible que la nôtre, parce que nous, on a des engrais, des phytosanitaires, on a un certain nombre de moyens d'action et des moyens de transport, l'irrigation, on a tout un tas de trucs. Les gens qui ont beaucoup moins de moyens, ils n'ont pas tout ça, et donc les caprices du climat leur font beaucoup plus de dommages à la production agricole. Et donc les pays qui sont le plus sensibles, alors j'ai plus en tête si c'est l'Inde, le Mexique ou la Mauritanie, mais enfin, c'est pas du tout les pays du Nord qui sont les plus sensibles à la question du réchauffement climatique. Voilà, donc l'idée que les pays qui sont où les gens sont moins bien, sont moins opulents sur le plan matériel que ce que nous avons chez nous, sont des pays qui sont beaucoup moins préoccupés des questions environnementales, malheureusement c'est pas vrai. Enfin, malheureusement. De fait, ça n'est pas vrai.
Et ce raisonnement vaut aussi au niveau français ou pas ?
Alors, au niveau français, ça, je ne sais pas. J'ai pas regardé. Mais par contre, la... encore une fois, je sais répondre pour la différenciation entre pays. Je ne suis pas sûr qu'il y ait une différenciation, qu'il y ait beaucoup d'éléments publics sur la différenciation en France en fonction du type de revenu. Par contre, enfin du niveau de revenu, par contre, je suis certain qu'il y a une différenciation forte en fonction de la préférence partisane. Ça, c'est très clair. Sur le niveau de revenu, je ne suis pas sûr. J'ai rien en tête, là, comme ça.
Ulric de Gélis, vous l'avez dit, notre mode de vie occidental, indissociable de notre conception de la liberté, est intrinsèquement carboné. Du coup, en réduisant notre utilisation des énergies fossiles, les libertés dont nous jouissons sont-elles vouées à reculer ?
Oui, alors, c'est une théorie... c'est une théorie philosophique qui est... en particulier qui est défendu par quelqu'un qui s'appelle Pierre Charbonnier et qui consiste à coupler l'une à l'autre l'abondance d'extraction et une expérience, un type d'expérience de liberté. Dans le contexte des sociétés européennes occidentales et particulièrement des sociétés qui ont été façonnées par la philosophie des Lumières, et qui consiste à dire que cette philosophie consistant à dire qu'il était important de se dégager de toute tutelle, à l'époque le roi, l'église, on pourrait dire maintenant la question de la nature, donc se dégager aussi de la tutelle de la nature, et donc on extrait dans cette nature pour en être émancipé et donc jouir d'une liberté. Cette liberté-là, effectivement, historiquement, c'est une liberté carbonée. C'est une liberté qui naît avec l'extraction du charbon, qui se transforme profondément avec le pétrole, c'est-à-dire un autre type d'expérience de liberté avec le pétrole. Sans doute que si on continue et qu'on poursuit le schéma, elle recevra des configurations nouvelles avec le tout électrique. Mais ça, ce sont des questions qu'il faut réfléchir. Pour le charbon et le pétrole, on peut dire que ce type de liberté-là, ce type de liberté d'émancipation, est un type de liberté, en tout cas historiquement carbonée. Donc, ça pose des vraies questions. En réalité, ça pose la question que je suggérais tout à l'heure, c'est qu'est-ce qu'on cherche, au fond ? Qu'est-ce que nous cherchons ? Qu'est-ce que ça veut dire, évidemment, être libre ? Mais qu'est-ce qui est voulu ? Quelles sont nos volontés collectives ? Qu'est-ce que nous cherchons à faire ? Qu'est-ce que nous cherchons à obtenir ? Ça, c'est ça, une vraie question. Ça, c'est la vraie question. Je suis absolument convaincu que même dans un monde avec des conditions d'existence dégradées, on pourra continuer à être heureux. On pourra se réjouir de la naissance d'un enfant, on pourra se réjouir de, que sais-je, moi, de mariage d'amis, ou de n'importe. On sera capable d'être heureux, on sera capable de se réjouir. Est-ce que ces expériences-là de réjouissance sont des expériences qui impliquent une liberté moindre que simplement une liberté de consommer, de tout faire, etc., d'être émancipé de tout? Pas sûr. C'est pas sûr. Donc, que l'on cherche à transformer, cette notion de liberté, je pense pas tellement la question de contraindre les libertés, je sais pas si c'est vraiment le point. Par contre, de la transformer, oui, ça c'est absolument urgent. On revient à la question des valeurs tout à l'heure, mais c'est ça qu'il faut qu'on arrive à faire. Et c'est là où, précisément, il faut travailler sur l'éducation nationale, sur l'éducation, même, pour moi, prêtre, la question de l'homélitique, enfin, des homélies, des prédications, etc. Enfin bref, il y a plein de vecteurs par lesquels on peut amener les gens à réfléchir sur ce que c'est qu'en réalité la liberté, et prendre conscience qu'il y a des configurations de liberté qui sont plus ou moins viables, plus ou moins durables, on va dire.
C'est évident que les combustibles fossiles ont créé des libertés nouvelles. La liberté de se déplacer loin... dans un laps de temps donné, c'est quelque chose qui est un bénéfice des combustibles fossiles. La liberté d'avoir des tâches moins pénibles, je ne sais pas si on appelle ça une liberté, mais quand on travaille, aujourd'hui, ce que l'essentiel des gens font dans le cadre du travail, ce que dans l'ancien temps, on appelait se reposer, c'est-à-dire avoir le cul posé sur une chaise. Bon. Quand on travaille derrière un bureau, c'est exactement ça qu'on fait. Enfin, bon. Donc, ça a amené la liberté, entre guillemets, de vivre plus vieux. Ça a amené la liberté de manger plus. Ça a amené la liberté de... Enfin voilà, ça a amené plein de choses qu'on pourrait considérer comme étant des libertés, dans le sens où le symétrique, c'est une obligation, l'obligation d'être malade, l'obligation de mourir, etc., qu'on ne peut pas considérer comme... Enfin, ce n'est pas une liberté, en général, d'être malade ou mourir, quoi. On ne l'appelle pas comme ça. Donc, avoir moins de combustible... La décarbonation, c'est un casse-tête, parce que ça veut dire essayer de garder les acquis qui ont été amenés par les combustibles fossiles en enlevant les combustibles fossiles sous-jacents qui ont permis ces acquis. Alors, on comprend bien. Alors, même s'il faut le faire... Parce qu'il faut le faire, parce que la question de l'épuisement des ressources est là, et parce que la question du changement climatique risque de torpiller une bonne partie de ces acquis. On ne peut pas dire, c'est ce que je disais tout à l'heure, il n'y a qu'à Faucon, ça va être simple. Non, ça ne va pas du tout être simple. C'est très compliqué, ça va demander beaucoup d'efforts. Même si on considère qu'on n'a pas le choix, ça va quand même demander beaucoup d'efforts et ça va être compliqué. Donc, la question, c'est comment est-ce qu'on arbitre les libertés ? Donc, j'abandonne la liberté de prendre l'avion pour aller passer un week-end à Rome. Okay. J'abandonne la liberté de prendre ma voiture qui pèse une tonne et demie pour aller au boulot et je prendrai plutôt un engin qui pèse le dixième ou le centième de ce poids, etc. Qu'est-ce que je gagne comme liberté en face ? Voilà, c'est ça la question. Alors, je peux gagner la liberté de vivre dans un monde en paix, parce qu'on a tendance à oublier en France, qui n'a pas connu la guerre sur son sol depuis maintenant 80 ans, cette menace-là, elle est éternelle au sein des civilisations humaines. Et en ce moment, ça se rappelle à notre bon souvenir dans un certain nombre d'endroits dans le monde. Bon, notre bon ou notre mauvais souvenir, plus exactement. C'est peut-être pas rien, cette liberté-là. La liberté d'expression, c'est-à-dire la liberté de vivre dans une société où justement on peut aller et venir alors qu'on aille et vienne à pied ou en voiture, un peu comme ça nous chante, sans avoir de rendre de compte à qui que ce soit, et si j'ai envie de sortir à 3h du matin de chez moi, je le fais, il n'y a pas de loi qui m'en empêche, et si j'ai envie, enfin voilà, c'est indépendamment des moyens mécanisés, hein, bon. Donc la question, c'est celle de qu'est-ce qu'on est capable d'incarner comme liberté qu'on conserve ou comme liberté qu'on acquiert dans un monde dans lequel on va perdre de fait. Alors appelons pas ça des libertés, appelons ça des degrés de liberté par exemple l'exercice de la mobilité ou c'est pareil, habiter dans 40 mètres carrés, c'est plus sympa que d'habiter dans 20. Bon, et c'est un bénéfice qui nous a été aussi amené par l'énergie abondante. Bon. Si on perd la liberté d'habiter, qu'est-ce qu'on gagne en face ? Alors peut-être que par exemple, aujourd'hui, les jeunes colocataires, parce que la colocation, c'est une forme de mutualisation, hein, c'est une forme de sobriété sur l'espace habitable, peut-être que finalement, il y en a qui trouvent ça plutôt sympa, parce que quand vous arrivez quelque part dans une ville que vous ne connaissez pas, et bien ça vous permet d'avoir instantanément des gens avec qui interagir, plutôt que d'être seul dans votre studio. Enfin voilà, il va falloir qu'on soit capable d'illustrer ce qu'on peut trouver comme bénéfice, associé et comme liberté quelque part, associé aux obligations, qu'on va quand même devoir avoir si on veut régler le problème. Donc c'est ce que les Anglais appelleraient un trade-off. Là, il faut qu'on arrive à trouver voilà. Le sens. Est-ce que retrouver du sens ou avoir du sens, on peut qualifier ça d'avoir une liberté ? Je ne sais pas. Le bénéfice, sûrement. Liberté, je ne sais pas. Mais on est dans ce registre-là. C'est-à-dire qu'il ne faut pas voir les choses comme uniques. Si on ne voit les choses que comme négatives, on ne passe pas à l'action. Personne ne passe à l'action juste pour avoir moins de tout. Ça n'existe pas, ça. Vous avez nécessairement quelque chose en plus quand vous passez à l'action. Et il faut être capable d'incarner en face d'une perte objective de degré de liberté qui est réelle, il faut être capable d'incarner un bénéfice qui va aussi avec une forme, alors je ne sais pas s'il faut l'appeler liberté, de sérénité, de bonheur, enfin, je ne sais pas exactement. Enfin, on est dans ces matières molles-là, quoi, et il faut arriver à l'expliciter. Et à y faire adhérer. Voilà, c'est ça qui me semble important.
Oui, mais comment y faire adhérer ? C'est-à-dire que est-ce qu'il faut incentiver les agents économiques pour les pousser à l'action ? Ou est-ce qu'il faut mettre l'accent sur les conséquences de l'action ou de l'inaction écologique ?
Ça dépend beaucoup à quel niveau on est. Quand on est dans l'action individuelle, c'est très très rare que des gens prennent une action qui n'a que des inconvénients. Alors, je vais vous prendre quelques exemples. Si vous acceptez de changer de moyen de transport pour passer de la voiture au vélo en zone urbaine, voilà. Si on vous dit juste « vous n'aurez pas votre voiture », ça ne marche pas. Si on dit « à côté de ça, vous serez moins stressé, vous ne serez pas coincé dans les embouteillages, vous serez en meilleure santé, ça va vous coûter moins cher et en plus vous pourrez frimer à la machine à café avec vos mollets tout neufs », eh bien, ça a une meilleure chance de passer. Donc là, vous voyez bien, dans le deuxième cas de figure, on liste tous les bénéfices. Et tout ça, c'est des bénéfices de raisonnablement court terme. Le fait de ne pas être stressé quand vous êtes dans les embouteillages, ben, dès que vous n'êtes plus dans les embouteillages, pof, vous avez ce gain. D'accord ? Autre exemple, je vais vous en prendre un qui est un peu taquin sur le chauffage. Tout le monde sait que de dormir la truffe au frais, c'est plutôt meilleur, on dort mieux, etc. Bon, ne serait-ce que ça, alors c'est un petit gain, vous allez me dire, mais baisser le chauffage la nuit, maintenant ça existe à peu près partout, hein. Ça n'a pas toujours été le cas. Hein.
Non.
Vous pouvez l'incarner dans un bénéfice de court terme qui est de mieux dormir. Oui, vous n'avez pas besoin d'aller chercher la sauvegarde de la planète, etc. Et moi, je suis très, très convaincu par le fait que c'est très, très difficile aux gens de passer à l'action de manière massive s'il n'y a pas un bénéfice de court terme. Alors, le bénéfice de court terme, pour rebondir sur le domaine de compétences de mon voisin, ça peut aussi être la considération des autres. On est très attaché aux signes de statut, on est des animaux sociaux, et du reste, l'Église s'est bâtie là-dessus, hein, sur les signes d'appartenance, les signes de reconnaissance, etc. Ça, c'est quelque chose qui peut être un moteur extrêmement puissant dans le fait de passer à l'action. Encore une fois, si je prends quelques exemples, à Carbon 4, il nous arrive d'avoir des clients qui ont mon âge ou à peu près de ma génération, dont je sais qu'un des éléments du passage à l'action, c'est qu'ils se sont fait passer une danse par leurs enfants. Donc ça, c'est un élément. Donc un des trucs qu'ils vont gagner, c'est une pacification des relations familiales. Bon, ça, c'est du très court terme. D'accord, voilà. Donc il y aura toujours un élément de court terme. Il faut pas se leurrer. Personne ne va passer à l'action. Ça a été un peu dit tout à l'heure pour le bénéfice d'une humanité qui n'est pas incarnée, de gens qu'on n'est pas capable de nommer, qu'on n'est pas capable d'imaginer, avec qui on n'a pas de lien. Ça n'existe pas. Ça, c'est peut-être regrettable, mais on est fait comme ça. Donc il faut toujours qu'on trouve une raison très très court terme de passer à l'action. Et ça fait partie des choses qu'il faut que les gens qui proposent des solution est clairement dans un coin de leur cervelle, c'est qu'est-ce qu'on gagne à court terme, pas juste à long terme, mais qu'est-ce qu'on est capable d'illustrer comme bénéfice de court terme. Je vais donner un dernier exemple sur quelque chose qui est un peu emblématique, qui est l'avion. L'avion aujourd'hui permet de très facilement se déplacer et à engendrer une mode de consommation du voyage qui est qu'on part 3 jours, je sais pas où. En fait, quand vous partez 3 jours, vous vous dépaysez pas. Vous quittez un univers urbain pour arriver dans un univers urbain qui est avec des tas de points communs, des hôtels qui ressemblent aux hôtels que vous avez chez vous, des fast-food qui ressemblent aux fast-food que vous avez chez vous, des magasins de fringues qui ressemblent à des voitures dans la rue qui ressemblent aux voitures que vous avez chez vous. Enfin, d'accord. Oui. Si vous voulez vraiment vous dépayser, il faut voyager lentement. Et il faut avoir besoin des autres. C'est deux choses où vous allez être vraiment dépaysé. Il faut avoir besoin d'interagir avec les autres parce que vous avez besoin d'eux. Il faut avoir besoin de... Deux, parce que vous êtes, par exemple, vous êtes expatrié. Là, vous êtes expatrié, vous découvrez une culture. Okay. Parce que vous êtes parti sac au dos et que vous ne savez pas où vous allez dormir le soir et que vous avez besoin d'interagir avec les gens. Bon, là, vous découvrez la culture, je peux vous assurer. Enfin, bon, bref. Donc, il faut avoir besoin des autres à un moment et il faut voyager lentement. Ben, vous pouvez très bien incarner le bénéfice de ne plus prendre l'avion par ces... Enfin, pardon, la perte de ne plus prendre l'avion par ces bénéfices-là que vous allez gagner un enrichissement que vous n'auriez jamais eu si vous aviez voyagé à coup de 3 jours ici et une semaine au Club Med là. Vous n'auriez jamais eu ça. Donc, c'est du court terme à nouveau. Donc il faut toujours, toujours, toujours chercher les bénéfices de court terme de l'action. Toujours.
J'aime bien cette expression du trade-off. Mmh. Et donc des bénéfices. Alors vous insistez sur les bénéfices court terme. On peut aussi chercher à inventorier des bénéfices plus long terme.
Bien sûr qu'il y en a. Je dis qu'ils sont rarement suffisants.
Ils sont rarement suffisants. Mais moi, ce qui me frappe dans ce que vous avez dit, c'est la place de la relation, et notamment du collectif. Évidemment, ça, c'est quelque chose qui, à mon avis, est absolument nécessaire. Vous connaissez certainement la courbe qui, moi, m'avait frappé, la courbe de consommation d'électricité au moment de la Coupe du Monde de football. Et ce qui est quand même fascinant, c'est de voir qu'à ce moment-là, la courbe d'électricité chute alors que tout le monde devrait utiliser son poste de télévision. Et pourquoi est-ce qu'elle chute ? Parce qu'on regarde ensemble. Et donc la leçon est assez jolie d'ailleurs, elle est merveilleuse. C'est-à-dire que quand on fait les choses ensemble, on utilise beaucoup moins d'énergie et les bénéfices sont évidemment, alors là pour le coup court terme, puisqu'on passe un bon moment, en espérant qu'on se dispute pas trop, mais les bénéfices court terme sont absolument capitaux. Donc ça, c'est quelque chose que je trouve très bien. Philosophiquement parlant, ça fait comprendre aussi que quelque part la crise écologique, c'est une conséquence de l'individualisme. C'est-à-dire que si jamais on fait les choses chacun dans son coin, construit des logements, logement pour un tel, pour un tel, pour un tel, pour un tel, on prend une voiture, on est tout seul, on prend un avion, bref. que la crise écologique, en fait, d'une certaine manière, elle est liée à une philosophie individualiste. Moi, j'aime bien dire une cosmologie individualiste, c'est-à-dire qu'on prend le monde comme si jamais le sujet qui était en face, ben, ce sont des individus, non plus des collectifs. Et sans doute qu'une des réponses majeures à la crise écologique, c'est précisément de retrouver la sagesse de la relation, de l'interaction, que ce soit les relations familiales, amicales, etc. Et ça, c'est quelque chose qui, à mon avis, est capital. La question de la relation, c'est quelque chose qui est capital. Dans mes réflexions, j'aime bien coupler la question de la crise écologique et l'effacement du prochain. C'est ce que je viens de dire en d'autres termes, avec des termes peut-être un peu plus théologiques ou spirituels. C'est-à-dire que le soin, ou du moins l'ouverture à laquelle, en tant que chrétien, nous sommes invités à prendre, à s'ouvrir à l'égard de notre prochain, donc de ceux qui sont proches, mais comme je le disais tout à l'heure, puisqu'on a un système de responsabilité qui étend la responsabilité, y compris de ceux qui sont lointains et qui deviennent d'une certaine manière proches, mais la conscience de ce prochain-là et l'importance de la relation est un moteur pour effectivement faire moins ou faire mieux ce que je faisais auparavant, et notamment sans abîmer l'environnement ou la nature. Donc j'aime bien cette histoire de trade-off et la question de la relation que je trouve chez vous, enfin, en tout cas dans ce que vous avez dit, qui moi me plaît beaucoup. Merci.
Ulrich de Gelis, je reviens à quelque chose que vous avez dit il y a un moment. Vous avez parlé de notre relation au non-humain. À ce propos, il est écrit dans la Bible, je cite, « Dieu les bénit et leur dit, soyez féconds et multipliez-vous, remplissez la terre et soumettez-la. Soyez les maîtres des poissons de la mer, des oiseaux du ciel et de tous les animaux qui vont et viennent sur la terre. » Fin de citation. À la lecture de ce genre d'extrait biblique, on pourrait penser que le christianisme a poussé l'homme dans cette exploitation irraisonnée de la terre. Qu'en pensez-vous ?
Oui, c'est une accusation qu'on trouve formulée depuis 1967, pour être précis, par un certain Lynn White, et qui est d'ailleurs à l'origine de la réflexion écologique dans une conférence, puis un article qu'il a publié dans la revue Science et qui a eu un retentissement absolument énorme. Et c'est précisément l'argument que lui cite. Alors Lynn White est un chrétien, c'est un presbytérien, qui est un historien des techniques médiévales, et qui cite cet argument-là pour dire que le christianisme devrait être cité au banc des accusés comme étant promoteur d'un anthropocentrisme insupportable pour la nature. Il y a une part de vrai dans l'argumentation de Lynn White, ça je vais pas revenir là-dessus. Je pense simplement que ce texte-là a plutôt été saisi comme justification après coup de d'actions qui sont tout simplement liées à la convoitise un peu bébête de l'être humain qui veut mettre la main sur la nature à son profit et si possible pas au profit du voisin. Donc une appropriation de la nature, et qui est très content de trouver ce genre de texte dans les corpus religieux pour dire « Regardez, c'est bon, c'est validé par le bon Dieu ». Donc ça, c'est là où moi je crois relativement peu en fait à l'impact des idéologies, sauf quand elles percolent avec ce qui a malheureusement de pas très beau dans le cœur humain. J'ai cité la convoitisme, on pourrait citer plein d'autres failles. Ce qui est sûr, c'est que dans la tradition chrétienne et la tradition médiévale, sans même remonter d'ailleurs jusqu'au texte biblique, ce que je ferai dans un instant, c'est que ce texte-là de Genèse 1, que vous avez cité, n'est jamais séparé de Genèse 2, qui représente Adam dans le jardin. Et le métier d'Adam dans le jardin, c'est de le jardiner, c'est de prendre soin de ce jardin-là. Donc, et ça, c'est la richesse de la Bible, c'est de toujours proposer des dialectiques, d'être jamais... lire un texte et de l'extraire du contexte, c'est quelque chose qu'on n'a jamais fait, sauf à la période moderne où on aime bien faire ce genre de trucs. Mais sinon, on ne le faisait pas auparavant. Il y avait une sagesse beaucoup plus grande. Et notamment, dans la sagesse populaire, donc de braves gens qui avaient peu accès aux textes et qui les voyaient par contre représentés sur les cathédrales, ou sur les portes des cathédrales, où toujours Adam est représenté comme étant l'image de Dieu, et en même temps, il a sa bêche dans la main. C'est un jardinier, c'est quelqu'un qui prend soin de la création. Donc ça, il y a quelque chose de... Donc ça, c'est pour rappeler aussi que c'est rare qu'on découpe comme ça le texte biblique, et généralement, on les prend ensemble.
Pardon de l'avoir fait.
Alors non, mais ça me donne l'occasion de répondre. Par contre, si je reviens au... Et j'arrêterai là, mais si je reviens au texte biblique lui-même... Là encore, il faut prendre les choses de manière plus globale. Le verset qui suit et que vous n'avez pas cité, Alexandre, c'est le verset dans lequel Dieu donne à l'être humain, ainsi que aux animaux qui deviendront carnivores, toute herbe verte. Donc dans le jardin de Dieu, d'une certaine manière, on ne mange pas de viande. C'est un régime végétarien. Pourquoi? C'est pas pour inciter les gens à être végétariens. On est dans l'ordre du mythe. Le mythe n'est pas une vérité ni scientifique ni historique. Par contre, ça amène à une réflexion, à une question du sens. Et donc, quel est le sens de donner de la nourriture végétale à l'homme et aux animaux qui deviendront plus tard carnivores, c'est-à-dire des prédateurs? Eh bien, c'est l'idée tout simple de dire qu'on ne verse pas de sang. On ne verse pas le sang à l'origine de la création. Et ça, ça dit quelque chose d'extrêmement fort, c'est-à-dire que le projet divin, en tout cas dans la foi chrétienne, c'est un projet dans lequel on ne verse pas le sang. Ni le sang humain, ni le sang animal. Ni le sang animal comme étant une image du sang humain. Et donc là, j'en viens à votre question. C'est-à-dire que on ne peut pas comprendre, et ça c'est vraiment une leçon en fait, me semble-t-il, de l'Écriture sainte, de la Bible, on ne peut pas avoir une perception complète de ce que c'est qu'une altérité humaine si jamais on n'est pas capable en même temps de prendre soin des altérités non humaines. Et ça, c'est une certaine manière de se tenir au monde. Quand on dit tu aimeras ton prochain comme toi-même, il s'agit clairement de l'être humain, mais d'une certaine manière, l'amour pour le prochain devrait être capable de passer par le détour des altérités non humaines comme étant des propédeutiques à chaque fois du visage d'autrui. Et donc c'est là où soin de la création et soin des prochains, le cri de la terre et des pauvres, pour reprendre cette expression du pape François, trouve son origine. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question, parce que j'étais un peu long, mais...
Si, c'était parfait. On va aller sur un terrain un peu plus terre-à-terre, sur le terrain du marché du travail. Jean-Marc Jancovici, dans le plan de transformation de l'économie française que vous avez rédigé en 2022 avec le Shift Project, vous prévoyez de vastes transformations du marché du travail. Vous prévoyez en effet la création de 1,1 million d'emplois, mais la suppression de 800 000 postes. Comment doubler le nombre d'agriculteurs, puisque c'est ce que vous prévoyez de faire dans un monde où les gens ne veulent potentiellement pas devenir agriculteurs?
Alors, petite précision, les volumes qu'on avait quantifiés dans le plan de transformation de l'économie française, l'assiette des emplois concernés était juste de 4 millions, parce qu'il y a plein d'emplois sur lesquels on n'avait pas d'éléments pour savoir combien il y en aurait en plus, combien il y en aurait en moins. Et par ailleurs, même pour les emplois pour lesquels il n'y en a pas nécessairement en plus ou en moins, la décomposition à l'intérieur de l'emploi peut fortement changer. Par exemple, les enseignants. Moi, je ne sais pas vous dire, dans un monde qui doit rapidement se décarboner, si on a autant d'enseignants en anglais, en philo, de par le passé, et autant d'enseignants en mécanique, et en... Voilà, je ne sais pas. D'accord. Donc, on n'avait pas regardé ce truc-là. Donc, on avait dit, allez, pour le moment, on n'a pas d'éléments qui nous permettent de penser qu'il y a plus ou moins d'enseignants dans le monde qui transitionne. Et quand on dit on n'a pas d'éléments qui permettent de le penser, ça ne veut pas dire qu'on a un chiffre à proposer. On ne sait pas. D'accord. Ce qui est absolument certain, c'est que quand on regarde, pour finir là-dessus, de par le passé, comment est-ce que l'abondance énergétique a modifié la structure des emplois, ça a été juste massif. Il y a deux siècles, les deux tiers de la population française étaient agricultrices. D'accord ? Les deux tiers des actifs étaient agriculteurs, et encore, je ne sais pas comment on comptait les conjoints d'eux, parce qu'à l'époque, c'était comme ça que ça marchait, d'agriculteurs au masculin, mais qui faisaient en pratique, physiquement, exactement le même boulot que leur mari. Donc la population était essentiellement rurale et agricultrice, et ça s'est déformé sous l'avènement de l'arrivée des machines, par plus d'emplois dans l'industrie et considérablement plus d'emplois dans le tertiaire. Dans l'agriculture, c'est très simple, les emplois modulo la productivité du travail sont proportionnels aux surfaces à cultiver. Et quand la productivité du travail augmente et pas les surfaces à cultiver, parce que la superficie du pays n'augmente plus, les emplois baissent. D'accord. Donc, donner plein de machines aux agriculteurs, pour un pays qui a une superficie donnée, la population agricole baissera. C'est aussi simple que ça. Dans l'industrie, vous avez un emploi par machine de production au travail. Donc, en gros, les emplois dans l'industrie sont des emplois de serviteurs de machines. Vous vous rappelez peut-être de Charlie Chaplin dans les temps modernes. C'est exactement ça. Donc, vous avez un emploi par machine au travail, par machine à piloter. Quand les machines à piloter deviennent beaucoup plus grosses et peuvent produire unitairement beaucoup plus, par exemple, en robotisant les chaînes, eh bien, vous pouvez produire autant d'objets en ayant moins d'emplois, parce que les machines sont unitairement beaucoup plus grosses et vous avez besoin de moins de monde. Dans les services, vous avez en gros, c'est encore une règle du pouce, un emploi par objet à gérer ou par flux à gérer. Alors, je reprends l'exemple de l'automobile. Dans l'automobile, pour fabriquer les automobiles, vous avez un emploi par machine fabriquant des automobiles. dans les services pour assurer les automobiles, pour financer les automobiles, pour apprendre à conduire des automobiles, pour apprendre à fabriquer des automobiles. Vous avez en gros un emploi par automobile. Enfin, pas par automobile, mais les emplois sont proportionnels au nombre. Plus vous avez d'auto, plus vous avez besoin de vendeurs. Plus vous avez d'auto, plus vous avez besoin de financeurs. Plus vous avez d'auto, plus vous avez besoin d'assureurs. Plus vous avez d'auto, plus vous avez besoin de moniteurs d'auto-école et de flics pour empêcher de dépasser les vitesses limites, etc. Donc, en gros, tous les emplois de service, ils sont proportionnels au nombre d'objets en circulation, en gros. Donc, dans le monde d'abondance que nous avons créé, on a, parce que les surfaces à cultiver n'augmentaient pas, baissé le nombre d'agriculteurs, et cette évolution de l'emploi est partout pareil quand l'énergie abondante est arrivée. Elle se reproduit exactement partout pareil, et ces 30 dernières années, on l'a vu à l'œuvre de manière absolument massive en Chine. Baisse très rapide de la population agricole, augmentation très rapide de la population industrielle et augmentation très rapide de la population tertiaire. C'est comme ça que ça s'est passé. Et aux États-Unis, qui sont sous perfusion énergétique encore plus que nous, 80% de l'emploi est tertiaire. D'accord ? Donc l'aboutissement ultime de la société énergivore, c'est une société tertiaire de gens qui pilotent des machines, qui gèrent des flux compliqués créés par des machines. Pardon, c'est plutôt ça. Alors, comment est-ce qu'on fait machine arrière, entre guillemets, dans un monde qui devient sobre en énergie ? La réponse, c'est qu'il n'y a pas de martingale. Il n'y a pas de martingale parce que dans les renoncements qu'on doit faire, il y a aussi une forme de renoncement au travail, j'allais dire, de feignant. Mon travail est un travail de feignant, physiquement. Non, mais je suis le cul sur une chaise derrière un ordinateur. C'est un travail de feignant sur le plan physique. Et aujourd'hui, l'essentiel des emplois dans le tertiaire sont des emplois, entre guillemets, de feignant. On n'a pas besoin de notre force physique. C'est l'une des raisons pour lesquelles, du reste, la tertiarisation de l'emploi a permis l'égalisation des conditions entre les hommes et les femmes. La force physique n'est plus un déterminant pour occuper un emploi. Quasiment plus. Et en fait, même dans l'industrie, quand vous pilotez une machine à commande numérique, vous n'avez pas besoin de force physique, c'est pas nécessaire. Donc, dans l'agriculture, de temps en temps, il faut quand même un tout petit peu, alors même si les machines sont omniprésentes, de temps en temps, il y a quand même quelques tâches où il faut quand même un peu se dépenser. Et c'est plus contraignant, objectivement, pour un certain nombre de métiers que l'emploi de bureau. Dans l'élevage, par exemple, vous n'avez pas de week-end, peu de vacances, et vous vous levez tous les jours à l'heure de la traite, alors, sauf maintenant pour les grosses exploitations qui ont un robot de traite, mais sinon les autres non. Et donc, c'est évidemment beaucoup plus contraignant. Vous ne pouvez pas partir l'été en vacances, même quand vous êtes dans les cultures végétales, parce que c'est le moment où la production bat son plein et que vous êtes occupé à récolter, occupé à moissonner, etc. Donc, c'est des métiers qui sont globalement plus contraignants, et donc c'est plus difficile de trouver des gens. Voilà. Donc on va retomber sur le débat qu'on a eu tout à l'heure. C'est, puisque c'est pas simple, qu'est-ce qu'on a à offrir en contrepartie aux gens qui veulent bien aller dans ce métier-là? Alors, une des choses qu'il faudrait arriver à leur offrir en contrepartie, c'est une rémunération suffisante. Et aujourd'hui, il y a un vrai débat. Donc on a fait un gros travail au Shift Project sur la question agricole récemment. Et en fait, ce qui ressort, c'est que pour faire mieux, en gros, dans l'agriculture, il faut y mettre plus d'argent, pour dire les choses de manière totalement triviale. Donc, ça veut dire qu'il faut que la société accepte de repayer ses produits agricoles plus cher. Ouais. Alors, il faut voir que le prix réel des produits agricoles a été divisé, selon moi, par un facteur 30 à 50 en l'espace de, en l'espace d'un siècle et demi. Hein. On est sur ces facteurs diviseurs-là. Bah, c'est le pendant de la productivité d'un agriculteur qui a été multiplié par 200 en l'espace de deux siècles. La productivité d'un agriculteur, c'est... Alors, en fait, c'est plus l'agriculteur aujourd'hui qui produit, c'est les tracteurs. Mais si vous ramenez à l'individu seul, ça a été multiplié par 200. Et donc, parce que le tracteur ne se fait pas payer, il n'y a que l'agriculteur qui se fasse payer. Donc, si on veut, et aujourd'hui, les produits agricoles eux-mêmes, c'est-à-dire la nourriture elle-même, quand vous allez acheter une boîte d'œufs au supermarché, ce que vaut vraiment la production des œufs, c'est une part très, très minoritaire de ce que vous allez acheter. En fait, quand vous passez la caisse du magasin, il n'y a que 7% du ticket de caisse qui va aux agriculteurs. Alors, vous voyez, la dépense alimentaire des ménages en France, c'est à peu près 15% de ce qu'ils gagnent. Oui. Prenez 1,5% par 15%, ça fait 1%. D'accord ? Donc 1% de ce qu'on gagne, vous, moi, lui, tout le monde, va à la production de ce qu'on mange. C'est ridicule. Totalement ridicule. Bon. Donc, si on veut qu'il y ait plus de monde qui rentre dans l'agriculture, eh ben, il faut que ce 1% augmente. Voilà. Si je résume ma réponse, vous pouvez la résumer à ça.
En effet, enfin, j'avais vu des statistiques assez impressionnantes sur la part du budget des ménages qui était consacrée à l'alimentation. En 1980, je crois qu'on est à peu près à 25-30%. Et maintenant, on est à 14%. Et l'objectif affiché, c'est qu'on descende en dessous à 12%. Les États-Unis, c'est à 12%.
Alors, c'est en train de remonter un tout petit peu dernièrement.
D'accord.
Depuis que l'approvisionnement énergétique est plus tendu, ça remonte un peu.
Mais ça reste extrêmement bas
par rapport à la période historique, bien sûr.
Donc ça, c'est quand même une vraie question. Ça pose aussi d'autres questions. C'est-à-dire qu'à 12% ou 13, 14 ou 15%, forcément, les gens mangent mal. Et donc, ce sont des produits qui sont hyper transformés et que ça a des implications sur la santé, etc. Enfin bref, il y a des tas de coûts en chaîne. Donc, ce qu'il faudrait aussi peut-être, pourquoi pas réfléchir, c'est la participation aussi de tous les acteurs de l'agroalimentaire, notamment à la santé des Français ou à la santé des consommateurs. Et donc, forcément, ça va coûter plus cher. Il faut que...
Ou pas, parce que, vous savez, acheter des patates et faire la purée soi-même, c'est pas très cher. Hein. Par contre, ça demande du temps,
mais à condition aussi que les flux soient, notamment les flux monétaires, que, effectivement, l'agriculteur puisse avoir sa juste rémunération.
Ça demande du temps. Or, aujourd'hui, le temps au domicile, il a eu tendance à baisser parce qu'on a plus d'activités extérieures, on a plus de travail salarié, etc. Tout ça est dans un même, dans un même tout, hein, c'est très clair. Mais oui, ça peut faire des choses.
Ulric de Gélis, un peu plus tôt, vous avez parlé de se réjouir de la naissance d'un enfant. On va peut-être arriver sur un sujet un petit peu moins consensuel, celui de la démographie. On entend parfois que la réduction du nombre d'enfants par femme pourrait être efficace dans la lutte contre le dérèglement climatique. Jean-Marc Jancovici, compte tenu du temps qu'il nous reste pour agir, la réduction du nombre d'enfants par femme est-elle vraiment efficace à court-moyen terme? Ou est-ce que ça n'entretient pas les individus dans l'illusion qu'ils n'ont rien à changer immédiatement à leur confort personnel?
Quand vous regardez les ordres de grandeur, il y a deux sous-compartiments très distincts à cette question. Il y a ce qui se passe dans les pays qui sont encore à très forte natalité, et il y a ce qui se passe dans les pays qu'on a coutume d'appeler à économie avancée, anciennement industrialisés plutôt. Dans les pays anciennement industrialisés, quel que soit l'avis de Jean-Marc Jancovici, l'évolution qui est en train d'être constatée, et elle se constate partout, donc je pense qu'il y a plein de pays où mon avis n'a absolument aucune espèce d'influence sur ce qui se passe, quand c'est par la Corée du Sud par exemple, où actuellement on est à moins d'un enfant par femme, sur sa période de fécondité. Hein. La natalité a baissé de façon drastique partout. En Italie, en Espagne, ils sont à des niveaux très bas. En Allemagne, ils sont à des niveaux très bas. La France est un des pays européens où le niveau est resté aux alentours de 2 enfants par femme, mais on est plutôt une exception en Europe que la règle. Et donc, il y a un phénomène de décrue de la natalité qu'on constate absolument partout. Alors, question, c'est, dans ces pays-là, est-ce que c'est suffisant pour répondre aux défis climatiques? La réponse est non. La réponse est non, parce que quand vous avez une division à faire par 5 à 10 sur l'empreinte carbone par individu, le fait que d'ici 25 ou 30 ou 40 ans, on soit 20% de plus ou 20% de moins, ça ne change pas cet ordre de grandeur. D'accord ? Donc, à l'échelle planétaire, le fait qu'on soit 8 milliards plutôt que 6, ça alourdit le fardeau, c'est absolument évident. À l'échelle des pays occidentaux, là par contre, c'est un déterminant du deuxième ordre, parce qu'aujourd'hui, la variation de la population est très faible. En fait, le véritable enjeu de la variation de la population, il est dans les pays à croissance démographique rapide aujourd'hui, qui par ailleurs n'aspirent qu'à une chose, c'est-à-dire à copier le mode de vie occidental. Alors ça, c'est évident que plus la population de départ qui aspire à copier le mode de vie occidental est importante, et plus la pression sur l'environnement est importante quand la transition se fait, si elle se fait. C'est évident qu'en Inde, s'il y avait plutôt qu'1,4 milliard, 300 millions de personnes aspirant à avoir le mode de vie occidental, ça changerait un peu la donne. Bon. Qu'est-ce que j'ai comme solution à proposer pour qu'il en soit différemment? Alors, il y en a une, quand même. On a constaté, ça c'est quelque chose que les gens de l'aide au développement connaissent bien, que les facteurs qui permettaient, dans les pays à forte natalité, de diminuer le taux de fécondité des femmes, il y en a trois, en gros. Il y a leur émancipation, c'est-à-dire leur accès à l'éducation et leur accès aux ressources économiques, l'accès aux moyens de contraception, et rien de tout ça n'est coercitif, d'accord? C'est juste, on leur laisse le choix, quoi. Si elles veulent, elles peuvent. Le troisième élément, c'est les mécanismes de solidarité, qui font que les familles ne sont pas tentées d'être énormes, histoire que les vieux puissent compter sur les jeunes de la même famille, ou uniquement sur les jeunes de la même famille, pour assurer leurs vieux jours quand ils ne sont plus capables de travailler. Donc à partir du moment où vous instaurez des systèmes de retraite, des systèmes de sécurité sociale, etc., des systèmes d'entraide collective, eh bien, vous vous reposez un peu plus sur la collectivité, un peu moins sur vos moyens propres, et à ce moment, ça a aussi un effet sur le taux de fécondité. Voilà, ces trois mesures-là sont des mesures qu'on ne peut pas considérer comme étant... coercitive. Alors on aura peut-être un débat sur la contraception, mais sinon c'est pas des mesures qui sont coercitives au sens où on met pas un revolver sur la tempe en leur disant « vous allez faire moins de gosses », non, c'est pas du tout ça qu'on fait. L'éducation, on considère pas que ce soit quelque chose d'immoral ou de non vertueux, et l'émancipation des femmes, c'est rare les gens qui considèrent, en tout cas dans les sociétés occidentales, que c'est quelque chose qu'on devrait pas faire. Donc voilà, ça c'est trois mesures, et si on veut rendre service aux pays à forte croissance démographique au titre de l'aide au développement, en disant finalement le premier service à leur rendre, c'est qu'ils ne soient pas trop nombreux, parce que plus ils sont nombreux, plus ils vont peser sur les ressources qui vont leur permettre d'améliorer, parce que c'est quand même de ça dont il s'agit, leurs conditions de vie, et que ça demande des ressources. Eh bien, il y a ces trois mesures-là qui ont fait leur preuve et qui sont extrêmement efficaces.
Eric de Gis, vous voulez réagir à l'heure où on nous parle de réarmement démographique, à l'heure où le pape nous pousse également, pousse les chrétiens à faire des enfants?
En fait, la question, Jean-Marc l'a bien expliqué, la question, elle est d'une part, elle est différente selon les pays. Donc, on ne peut pas utiliser un slogan comme ça au niveau global sans faire des distinctions. Il y a aussi une chose qui est claire, c'est que, mais ça a déjà été un peu dit, c'est que personne ne pourra vivre. En tout cas, on ne peut pas vivre à 8 milliards avec le mode de vie des Américains. C'est juste pas possible.
Même des Français.
Ou même des Français. Donc, c'est juste pas possible. Donc là, il y a deux solutions. Soit on dit on partage. Après tout, c'est quand même une possibilité. Ou soit on dit on réduit le nombre de personnes. Je crois qu'il ne faut pas qu'on oublie un peu. Enfin, ce serait un peu facile de dire qu'on oublie la question du partage. Donc, du reste, d'ailleurs, c'est un peu l'argument de l'Inde ou de gens comme ça qui disent mais laissez-nous de l'espace en fait pour nous développer. Quand on a effectivement plus d'un milliard de personnes, ou en tout cas une classe moyenne énorme, alors je ne sais pas combien de millions de personnes la classe moyenne en Inde, mais de se développer, effectivement, ça émet beaucoup, beaucoup, beaucoup de carbone. Donc, il faut un peu d'espace pour ces gens-là. Donc, ça veut dire que nous, on va être obligés de faire de l'espace. Ça, c'est quand même vraiment d'abord la question. Et pas forcément en ayant moins d'enfants, mais en ayant un mode de vie qui soit tout simplement moins carboné. Pour moi, la question, elle est d'abord là, elle est essentiellement là. C'est le point, il est. Enfin, je trouve moi personnellement que sur ces questions de démographique, on a un peu tendance en fait à changer le sujet. Le point qui ne veut jamais être critiqué, c'est le fait qu'on ait un mode de vie tel que l'on a, etc., etc. Donc, du reste, tout à l'heure, on a dit qu'il fallait bien qu'on fasse quelques efforts. Donc là, ça, à mon avis, ça, c'est déjà une chose qui est importante. Ensuite de ça, sur les pays à forte natalité, il existe dans l'enseignement des papes un concept qu'on appelle la paternité responsable, qui rejoint d'ailleurs par un certain nombre de points ce que vous avez dit, c'est-à-dire le fait que on peut tout à fait prendre conscience de ce qui est de ce que l'on peut raisonnablement attendre en nombre d'enfants et enfin pour leur donner les conditions humaines de vie.
Il y a un dernier truc que je voudrais dire là-dessus. C'est pas une invitation à faire différemment ce que je veux dire, hein. Mais il y a quand même quelque chose de très triste quelque part. Dans le fait qu'une société appelle à ne plus faire d'enfants.
Oui, ça c'est sûr.
Parce que c'est quelque part un défaitisme absolu sur ce que l'avenir peut nous réserver. Alors je ne suis pas en train de dire faites des enfants partout, ce n'est pas ce que je suis en train de dire. Je dis juste, je ne suis même pas en train de dire il ne faut pas s'occuper de natalité. Mais dans nos pays à nous, entretenir un discours qui est faire des enfants, c'est devenu quelque chose de très ennuyeux. Il y a quelque chose moi qui me chagrine. Ça a pas de côté moral. Ça va plutôt avec une espèce de. Je me dis c'est des gens qui croient plus en rien en ce qui concerne l'avenir. Et c'est triste parce que ça veut dire par ailleurs que peut-être que c'est des gens qui n'auront pas envie de se battre alors qu'il va falloir le faire. Enfin au bon sens du terme. Hein, voilà. Donc, moi, j'ai constaté, en tout cas, chez les jeunes que je peux fréquenter dans mon univers professionnel, que quand ils ont des enfants, il se passe l'effet exactement inverse, c'est-à-dire que l'avenir s'incarne et ils se mettent à être, je ne veux pas dire encore plus motivés qu'avant, mais ils sont motivés de façon différente. Et ça a un effet aussi bénéfique. Donc, je suis pas, encore une fois, pas en train de dire faites des enfants. Je pense que la situation, et je veux juste souligner le fait que on est peut-être dans un débat qui est un tout petit peu plus complexe, indépendamment du fait qu'en plus ça touche à l'intime. Donc, moi, j'irai jamais dire faites des enfants ou faites pas des enfants. Je pense que ça relève de la responsabilité individuelle à laquelle on ne touche pas. Enfin, je veux dire, c'est de l'ordre de l'intime. Soyez responsable avec vos enfants, ça oui. Mais dans nos sociétés, c'est souvent le cas, heureusement. Mais le côté, j'ai décidé que tout était foutu, il y a un côté qui me dérange un peu.
Vous me paraissez assez optimiste, tous les deux, en fin de compte. C'est rare quand on parle d'écologie. Jean-Marc Jancovici, est-ce que vous pouvez nous donner une raison d'être optimiste en cette fin d'entretien?
Tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Non, mais alors d'abord, je pense que l'optimisme et le pessimisme, malheureusement, ça ne se contrôle pas.
Il se trouve qu'aujourd'hui, vous avez l'air optimiste.
Oui, enfin, alors d'abord, c'est une question de personnalité. Vous savez, les gens qui entreprennent sont rarement des gens qui sont totalement pessimistes. Parce que si vous êtes totalement pessimiste, vous tentez rien. Bon, donc. Même si vous êtes parfois un peu abattu, un peu etc., dès lors que vous êtes du côté de l'entreprise, enfin de l'entreprise, pas au sens économique du terme, mais au sens de l'action, nécessairement c'est que vous avez un fond d'optimisme. Et il y a quand même heureusement beaucoup de gens qui sont de ce côté-là, des gens qui entreprennent des trucs. Il y en a quand même beaucoup. Le monde associatif, par exemple, en ce moment, est un monde qui est extrêmement dynamique. Et c'est aussi un monde d'entreprise au sens où vous prenez des initiatives, vous faites des choses, etc. Le deuxième élément, c'est que je redis, enfin je termine par là où j'ai commencé. Moi, j'ai la chance d'être essentiellement entouré par des gens qui ont envie qu'on s'occupe du problème. Donc, c'est plus facile d'être optimiste dans ce genre de conditions. Quand vous êtes en terrain hostile toute la journée, parce que vous faites partie des trois convaincus dans votre boîte, ou par ailleurs tous les autres s'en contrefichent, un peu plus compliqué d'être optimiste. D'accord? Bon, moi, je suis de ce côté-là, du bon côté de la barrière. Et puis objectivement, il y a quand même des choses qui bougent. On en a parlé tout à l'heure. Le fait, par exemple, que dans la presse aujourd'hui, vous n'ayez plus de climato-scepticisme mainstream, bah, les choses ont bougé. Le fait que dans un certain nombre d'entreprises, vous en ayez qui commencent à être des sincèrement convaincus, tout simplement parce que ça fait leurs affaires, mais c'est la vie, ça, hein, c'est toujours comme ça, qui se sont emparés du sujet en disant, c'est voilà, aujourd'hui vous prenez le train, vous avez toujours une petite annonce avant de descendre du train, merci d'avoir choisi le train, qui est le mode de transport le plus écolo. Bon, ça c'est, vous voyez, donc il y a des choses qui, alors vous allez me dire, c'est un petit truc, mais pas que. En ce moment, il y a le trafic ferroviaire se porte très bien pour les individus. Donc voilà, je pense qu'il faut pas bouder les succès quand il y en a. Il se passe quand même des choses. Quand vous regardez ce qui s'est passé au niveau européen, par exemple, il y a plein de plans. Alors ils vont tous connaître des chaos, absolument tous, parce qu'ils étaient excessivement optimistes avec des objectifs irréalistes, etc. Donc là, ça aussi, ça renvoie à la discussion du début. Les choses vont pas se passer comme on pense qu'elles vont se passer. Et de temps en temps, il va y avoir des moments de recul, etc. Mais il y a un train qui est parti. Donc, il y a des choses qui vont se passer quand même. Donc, et puis, je sais plus qui disait, il est trop tard pour être pessimiste. C'est pas Churchill qui disait ça, ou, enfin, bon, bref. Si pas lui, il aurait pu. Voilà. Enfin, voilà. On est à un stade aujourd'hui où, de toute façon, il faut y croire. Parce que si vous y croyez pas, qu'est-ce que vous faites?
Je rejoins assez bien ce qui a été dit, c'est-à-dire que s'il n'y a pas l'optimisme, autant arrêter tout de suite. Mais surtout, je pense que, et ça c'est aussi quelque chose qui me frappe, la situation est difficile, mais il y a quand même des motifs de joie pour le coup. Alors, ce n'est pas simplement la question de l'optimisme, c'est la question de joie. D'ailleurs, c'est peut-être aussi un des points sur lesquels on pourrait travailler, d'ailleurs sur la question de l'écologie, ou de la transition écologique, c'est qu'il y ait de la joie, et peut-être encore plus de joie, dans ces questions-là. Après tout, la question de la relation. Vous avez tout à l'heure dit, on est plus heureux quand on respire un air pur que quand on respire un air pollué. Ben, de fait, accueillir des enfants, vous avez dit ça aussi, etc. Il y a quand même des lieux où il peut y avoir une véritable joie. Je le disais aussi tout à l'heure, même dans un monde avec des conditions d'existence dégradées, je suis convaincu qu'on pourra, et c'est heureux d'ailleurs, encore avoir des réjouissances, des joies, et goûter le bonheur. Donc ça, moi, ça c'est un peu l'étoile des rois mages, enfin le temps est passé, mais c'est quand même un petit peu ça, la joie. Et je terminerai peut-être pas en disant ça, mais vous savez que les dernières lignes du récit de la création auquel vous avez fait mention tout à l'heure, que vous avez mentionné tout à l'heure, s'achève sur le sabbat, c'est-à-dire le fait que l'on arrête de travailler pour se réjouir, et précisément pour se réjouir des bonnes choses, un morceau de musique, une amitié, un moment en famille, je sais pas moi, un paysage, un coucher de soleil, n'importe quoi, mais ce moment de la joie me semble être absolument capital, et je pense que ça c'est un moteur extrêmement puissant à l'action, la gratitude, la joie.
Eh bien, merci infiniment pour cette discussion.